France Inter, Karine Bécart, Éric Delvaux, le 6-9 du week-end.
Et le cœur du monde, il y a 20 ans, jour pour jour, c'était New York avec les attentats du 11 septembre 2001, le Pearl Harbor du 21e siècle, pour reprendre le commentaire de George Bush, tel qu'il le mentionne dans son carnet intime au soir de cette douloureuse journée, une séquence que j'ai relevée à la toute fin de votre livre, Nicole Bacharan, bonjour.
Bonjour.
On va rappeler que vous êtes historienne, politologue, spécialiste des États-Unis, vous publiez ce livre le 11 septembre, le jour du chaos, coécrit avec Dominique Simonet, et c'est pareil, chez Perrin. Et en duplex, l'éditorialiste du New York Times, le chef du bureau du New York Times à Paris. Bonjour Roger Cohen.
Bonjour.
C'est à vous d'ailleurs que je vais poser la première question, Roger Cohen, car vous étiez à New York ce 11 septembre 2001, et la veille, juste la veille, vous veniez de prendre vos fonctions de chef du service étranger du New York Times. Comment avez-vous réalisé ou vécu ce qui se déroulait sous vos yeux ce matin-là?
Ben, je venais de déposer mon fils, qui avait à l'époque 8 ans, je crois, à l'école, et j'étais à Brooklyn, à côté de l'East River, je regardais Manhattan, et il y avait quelqu'un à côté de moi. C'est une très belle journée, j'étais dans la voiture, il était en moto, il me dit « mais regardez, il y a la tour là qui brûle ». Et j'ai tourné à droite et j'ai entendu cette espèce de réverbération du deuxième avion qui est rentré dans la tour. J'ai couru là chez moi, je suis allé tout de suite au métro, je crois que j'étais sur le dernier subway, le 2-3, qui passe en dessous des tours pour arriver au bureau.
Et vous aviez immédiatement réalisé qu'il s'agissait d'un basculement, vous aviez compris immédiatement que l'Amérique ne serait plus maître du monde comme avant?
Pas immédiatement, pas dans l'instant, je pensais même pas... que les tours tomberaient, mais je suis arrivé au bureau et la première chose que j'ai vue, c'était la tour du Nord qui s'écroulait. À ce moment-là, on s'est rendu compte que le monde était changé, non seulement l'Amérique, mais le monde était changé, que ce siècle qui venait de commencer, il était commencé quand même avec de l'espoir, ça serait un siècle différent, difficile, et que l'Amérique qui s'était toujours considéré comme une espèce de sanctuaire était violé, et les Américains réagiraient de façon très forte.
Mmh. Roger Cohen, qu'est-ce qui reste définitivement gravé? Qu'est-ce qui brûle encore? Qu'est-ce qui continue à faire mal quand on est un New-Yorkais?
Ben, j'ai ces images dans ma tête, je les aurai toujours. Les tours qui s'écroulent, les foules qui courent, la poussière partout, cette odeur de la mort à la fin, cette fumée qui était, cette fumée noire qui pendant des semaines et des semaines était présente sur la ville, et ce sentiment, comme je viens de dire, d'être qu'on était violé, quoi, qu'on avait été attaqué, que la ville a souffert d'une façon très profonde. On peut pas l'effacer, c'est présent dans nous, et on pense pas à ça tous les jours, bien sûr.
Nicole Bacharan, quel est votre souvenir à votre arrivée à New York? Vous étiez dans l'avion, le premier avion français qui a atterri à New York 5 jours après les attentats.
Oui, absolument, puisque c'était la toute réouverture de l'espace aérien qui avait été cloué et fermé pendant 6 jours. Et je me souviens de cette atmosphère que Roger décrit très bien. D'abord l'arrivée à l'aéroport de New York, où les officiers de port, qui sont quand même généralement fort peu aimables, nous disaient « merci d'être venus ». Je me souviens des policiers dans les rues de New York qui tout d'un coup se comportaient un peu comme des psychologues, comme des grands frères, parce que les émotions étaient à vif. Ils prenaient les gens par les épaules en disant « oui, je comprends », etc., pour apaiser un peu les tensions. Je me souviens des avis de recherche partout dans le bas de la ville. Et cette odeur, et cette fumée, alors qu'il faisait un temps sublime, c'était vraiment l'été indien parfait, c'était une atmosphère d'une tristesse absolument déchirante.
Un temps sublime à l'époque, comme il fera beau aujourd'hui également, 20 ans après pour les commémorations. Nicole Bacharan, vous racontez dans votre livre les coulisses de cette journée du 11 novembre, minute du 11 septembre, minute par minute, avec un président Bush pris au dépourvu, un président qui tourne en rond dans son avis. Des ministres injoignables et des décisions stratégiques qui sont prises par des subordonnés. Vous décrivez en fait une Amérique qui est à genoux déjà, très vite.
Qui est à genoux en tout cas pendant cette journée, qui n'est pas préparée pour ce qui vient de se passer. Il y avait des alertes, il y a eu d'abord des attentats auparavant d'une moindre dimension mais qui quand même remontaient jusqu'à Al-Qaïda, jusqu'à Ben Laden. Il y avait des avertissements dans les renseignements, mais on s'est aperçu à quel point les agences de renseignement justement n'étaient pas coordonnées, à quel point les informations ne remontaient pas et à quel point les autorités n'étaient absolument pas préparé à ce qui arrivait. Vous décrivez le président, on se souvient de ces images, il était en Floride pour promouvoir sa réforme de l'éducation, il lisait une histoire devant une classe de jeunes enfants.
Où il écoute l'histoire d'une gamine qui raconte sa chèvre domestiquée.
Voilà. Et puis on lui apprend un accident au World Trade Center et quelques minutes après on lui dit l'Amérique est attaquée et on voit un homme qui est pétrifié, qui ne veut pas montrer de mouvement de panique, mais il ne sait pas quoi faire. Et toute la journée, ça sera ça. Des gens qui ne peuvent pas se joindre, qui ne savent pas quoi faire. Et puis au fond, des décisions qui ne peuvent qu'arriver trop tard, puisque en très peu de temps, les quatre avions se sont abattus sur leur cible ou dans un champ en Pennsylvanie.
Alors malgré tout, l'Amérique va quand même très vite réagir, va très vite mettre des moyens financiers et technologiques, notamment très importants, des moyens colossaux pour surveiller son propre pays, pour surveiller même le monde entier. Nouvelle doctrine sécuritaire, on entre dans une nouvelle ère, celle de la surveillance permanente, généralisée. Là, il y a un mouvement de bascule aussi. On est dedans et on n'en est toujours pas sorti.
On est complètement dedans. C'est vrai que il y a eu la guerre d'Afghanistan et on pourra reparler ensemble de la manière dont elle s'est conclue. Mm-hmm. La guerre d'Irak, mais la guerre contre le terrorisme, elle a toujours cours et à fond, ai-je envie de dire. Et elle implique des dizaines de pays, pas simplement les États-Unis. Il y a plus de 85 pays qui participent à cette guerre contre le terrorisme et c'est d'abord une guerre de surveillance. Dans nos pays démocratiques, mais également évidemment au Moyen-Orient, en Afrique en particulier, avec des moyens considérables aussi de la part de l'armée américaine, de la logistique, des opérations spéciales, des forces spéciales, des opérations d'entraînement. Donc la guerre contre le terrorisme qu'annonçait George Bush, elle a toujours lieu et la France y participe.
Mais avec quelle efficacité finalement?
Sur ce plan-là, une relative efficacité. Parce qu'on peut dire que les États-Unis n'ont pas connu, évidemment, d'attentats de la même ampleur que le 11 septembre. Il y a eu un seul attentat qui a été fait par des étrangers et non pas par des Américains. Et il y a eu, en gros, je dis pas ça comme si c'était rien, mais une centaine de morts aux États-Unis. D'attentats terroristes. On sait que la France, la Grande-Bretagne, nombre de pays d'Europe ont payé un lourd tribut. Et puis en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, ça continue. Mais tous les jours, des attentats sont déjoués.
Roger Cohen, le leadership mondial de l'Amérique s'est affaibli avec Kaboul à nouveau aux mains des talibans. N'y a-t-il pas une erreur de timing avec ce retrait précipité, voire la débâcle des forces américaines en Afghanistan, si proche des commémorations du 11 septembre?
Ben, c'est vrai que c'était la débâcle. Je pense pas, après 20 ans, qu'il y avait un bon moment, entre guillemets, pour quitter l'Afghanistan. On ne pouvait pas faire la guerre illimitée pour toujours. Ceci dit, le planning était absolument nul. On est dans un pays qui est entouré, il n'y a pas d'accès à la mer. Donc, par exemple, quitter Bagram, qui était la base aérienne principale des États-Unis, aussi un prison pendant longtemps où des choses terribles se sont passées. Quitter Bagram au milieu de la nuit, ça démontrait, je pense à l'armée afghane, que c'était pas sérieux, quoi. Et puis cette armée où on a investi 84 milliards de dollars, c'est pas rien, 84 milliards de dollars, s'évapore, s'écroule dans dans quelques instants, il n'y a pas de résistance aux talibans. Je dirais que ça a été une humiliation nationale, c'est sûr.
Pour éviter cette humiliation, pourquoi est-ce que les Américains ne sont pas partis 10 ans pile après les attaques du 11 septembre, c'est-à-dire avec l'élimination de Ben Laden, ils tenaient leur revanche 10 ans pile après les attentats?
Oui, bah, il y a eu tellement d'erreurs. Entamer la guerre d'Irak après 2 ans en Afghanistan, on aurait pu compléter l'opération en Afghanistan. Il y a eu énormément d'erreurs. Probablement, ça aurait été un moment meilleur moment pour quitter l'Afghanistan. J'ai envie de dire que, on parlait là des menaces qu'il y a aux États-Unis et cette guerre illimité qu'il y a eu, mais la vraie menace pour les États-Unis en ce moment, je pense, vient de l'intérieur, enfin vient du 6 janvier, vient du fait que ces guerres n'ont pas été au fond des guerres nationales. Il y a une petite partie des États-Unis, l'armée, les militaires qui ont fait la guerre, et le reste du pays est allé faire du shopping à Amazon. Et donc, il n'y a pas eu une expérience, si vous voulez, partagée. Et ça a contribué à cette fracture des États-Unis qui a créé le mouvement Trump et qui a créé ces divisions qu'on voit toujours. Donc la menace, quelque part, c'est transféré de l'extérieur à l'intérieur. Je ne dis pas que la menace extérieure n'existe plus, elle existe.
Mais vous dites qu'elle est surtout à l'intérieur. Un mot, une réaction sur les mots de Joe Biden cette nuit dans une vidéo lorsqu'il dit « nous ne devons pas avoir peur ». Est-ce que cette peur des Américains a réellement disparu, Roger Cohen ?
Non, je crois pas. Je crois qu'il y a une anxiété, il y a une peur. Il y a une peur partout dans nos sociétés. On le voit avec le Covid. Il faut se rappeler qu'il y a 20 ans, quand il y a eu les attentats, il n'avait pas de réseaux sociaux. Ça peut-être démontre, 20 ans, c'est beaucoup. Le monde change radicalement. Et les réseaux sociaux, bien sûr, sont un moyen de générer sans cesse la peur, entre autres choses. Et le président a beau dire qu'on ne doit pas avoir peur, je pense que ça a marqué, le 11 septembre, a marqué profondément les Américains, la confiance américaine. Il y a eu une blessure profonde à la confiance américaine et ça, malheureusement, je pense quelque part, ça persiste. Et toutes nos sociétés sont, à mon avis, affligées par la peur. La France y compris.
Je rebondis sur ce que vous disiez, Roger Cohen. Voilà, la vraie menace est à l'intérieur des États-Unis. En tout cas, c'est comme ça qu'eux le perçoivent. En fait, que ce soit en Afghanistan, Nicole Bacharan, en Irak et même aujourd'hui au Sahel, malgré tout, on n'a aucune démocratie occidentale aujourd'hui qui a réussi à faire baisser l'intensité de l'activité terroriste. Est-ce que la vraie crainte, la vraie menace, le vrai échec n'est pas là, en fait, surtout quand même ?
En tout cas, ça nous montre que ça va durer très longtemps. Ça va durer très longtemps. Alors évidemment, on peut toujours refaire, il faut le refaire, l'histoire de l'Afghanistan, l'histoire de l'Irak, à quel point ce sont devenus des pôles d'attraction, des aimants pour les djihadistes du monde entier. On peut même interpréter en partie le 11 septembre comme une volonté au fond des djihadistes d'attirer les États-Unis sur des théâtres extérieurs et de faire monter la passion djihadiste dans les populations. Mais c'est vrai que on n'est pas en échec total puisque beaucoup d'attentats sont déjoués, mais il y a des menaces dans nos sociétés, des menaces terroristes, mais des menaces sur les démocraties, comme Roger le disait à l'instant aux États-Unis, mais également en Europe, à la fois des sociétés de peur, des sociétés divisées, mais des sociétés où il y a pour une partie de la population une lassitude à l'égard de la démocratie, l'envie d'un régime autoritaire, d'un homme fort qui peut-être réglerait les choses mieux et plus vite. Donc oui, il y a beaucoup de grands chantiers qui restent ouverts en ce 21e siècle et qui sont issus du 11 septembre.
Et puis Nicole Bacharan, il y a aussi cet interminable procès qui s'enlise depuis près de 9 ans, je crois, à propos de ces 5 hommes accusés d'avoir planifié les attentats du 11 septembre, le cerveau présumé, Khalid Sheikh Mohamed, et puis 4 autres hommes. La procédure embourbée, pourquoi ?
En fait, tout a c'est dans l'œuf dès le début. Tout a été fait pour que les prisonniers de Guantanamo ne bénéficient pas de la protection de la Constitution ou des lois américaines. Cette prison a été mise à Guantanamo parce que c'est hors du territoire américain. C'est fait exprès, ça a été fait exprès pour ça. Et on ne peut pas faire réellement ces procès. Le Congrès a refusé tout crédit pour amener les prisonniers sur le sol américain devant des tribunaux fédéraux. Et donc, il n'y a pas d'argent pour le faire. Les tribunaux fédéraux américains refuseraient, dans la loi, d'écouter des témoignages qui ont été extorqués sous la torture. Donc, les procès ont lieu devant des commissions militaires, mais réellement, ce sont des procès qui n'en sont pas. Et il faut quand même rappeler que dans la suite du 11 septembre, l'administration Bush a validé Guantanamo, a validé l'usage de la torture.
Plus dans l'état de droit, hein, quand même, quand on vous écoute, clairement.
C'est une justice militaire d'exception.
Justice militaire d'exception. Ça ne veut pas dire que c'était des enfants de cœur. Hein. La question n'est pas là. Khalid Sheikh Mohamed, tout le monde connaît son parcours. Mais néanmoins, on n'y a pas fait face judiciairement avec les outils de la démocratie. Et c'est vrai que les images des prisonniers en costume orange derrière des cages, même si ça n'a plus lieu aujourd'hui, heureusement, c'est quelque chose qui a marqué terriblement.
Et Barack Obama qui a reconnu les cas de torture à Guantanamo. Roger Cohen, Barack Obama a voulu fermer tout de même Guantanamo, empêché par le Congrès. Est-ce que le démocrate Joe Biden aura plus de succès dans cette entreprise ?
Je ne sais pas. Parfois, on a vu Biden déjà plus décisif qu'Obama. Je pense sortir de l'état de droit de cette manière, c'est une des choses plus terribles qui s'est passée parce que les États-Unis dans le monde, le rayonnement des États-Unis dans le monde, c'est quand même fondé sur le fait d'être l'état de droit, l'état de liberté individuelle garanti par la Constitution. Il est temps de fermer Guantanamo. S'il était facile de le faire, ça aurait été fait. Il y a une quarantaine de prisonniers qui restent. J'espère fermement, vivement que Joe Biden réussisse à le faire. Je voudrais juste rajouter que l'Amérique, c'est pas terminé, quoi. L'espoir des États-Unis. J'étais dernièrement aux États-Unis et j'ai rencontré un Afghan qui venait d'arriver il y a 6-7 ans. Il avait déjà, c'était l'American Dream, quoi. Il était dans le Tennessee. Il travaille 60 heures par semaine, 70 heures par semaine. Il a déjà deux maisons. Enfin, il y a des possibilités dans ce pays, mais il y a cette blessure quand même qui nous a marqués.
Merci pour votre optimisme, Roger Cohen, Nicole Bacharan, merci.
Merci à vous.
On lira donc ce livre que vous avez coécrit avec Dominique Simonet, le 11 septembre, le jour du chaos. On verra aussi comment certains ont profité de la confusion générale pour enjoliver le rôle qu'ils ont joué dans cette journée. Merci beaucoup à tous les deux et bonne journée. Il est 8h40.